suggestions de lecture pour vos vacances juste à temps. Et moi, je vous propose les deux tomes de cette saga historique de Sylvain-Claude Filion dans l'ombre du Mont-Royal. Le deuxième vient tout juste de paraître. Une saga historique qui vous fera découvrir l'époque des soirées mondaines, les enjeux politiques, les rêves juste avant le début des années 1900. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sylvain-Claude Filion. Bonjour, M. Filion.
Bonjour, bonjour.
Comment allez-vous?
Écoutez, je vais très bien. Je suis flatté que ma réputation soit juste au Nouveau-Brunswick.
Eh bien, c'est vraiment agréable de vous découvrir, de découvrir vos livres. Mais ça, lorsqu'on parle de dans l'ombre du Mont-Royal, c'est pas vos premiers livres, M. Filion.
Écoutez, j'ai eu la chance d'avoir deux best-sellers, la biographie de Béatrice Picard il y a quelques années.
Oui.
Et il y a un petit peu plus longtemps, celle du skieur acrobatique Yves Laroche.
OK. Vous êtes journaliste, chroniqueur, et là, vous êtes un passionné d'histoire aussi.
Oui, oui. Et puis, en fait, ça fait 10 ans que je suis écrivain à temps plein. J'ai cessé le travail dans les médias après une bien longue carrière où j'ai fait un peu de tout. Et c'était mon rêve de devenir écrivain. Puis, je peux maintenant me le permettre. Je dirais pas que je vis de ma plume précisément,
oui.
Mais je peux. Je suis dans cette étape de ma vie où je me consacre à l'écriture.
Vous nous proposez donc une belle histoire avec Dans l'ombre du Mont-Royal, mais avant de donner les détails concernant les personnages, les enjeux et tout ça, là, ce livre-là, cette saga, a toute une histoire parce que vous avez commencé à l'écrire il y a quoi, une cinquantaine d'années?
Oui, exactement. J'ai beaucoup écrit dans mon adolescence et puis en arrivant sur le marché du travail, j'ai travaillé en écrivant, soit pour la radio, ensuite pour la télévision, pour des magazines, des journaux, et je remettais toujours à plus tard l'écriture d'un roman, parce que, comme tout le monde, je voulais gagner ma vie. Et dans le cas de Dans l'ombre du Mont-Royal, c'est quelque chose que j'avais élaboré il y a exactement 50 ans, j'avais 16 ans. Ensuite, j'ai fait des recherches à deux reprises dans ma vie où je voulais vraiment m'y mettre. Et puis, à chaque fois, j'avais une petite gêne, comme on dit, de faire parler des personnages comme historiques, comme Wilfrid Laurier, qui est au cœur du récit. Et c'est venu il y a quelques années que j'ai dit, tiens, je vais aller revisiter mes notes accumulées. Et le déclic s'est fait. Je me suis dit, tiens, je suis prêt.
Parce que là, on parle de plus de 1000 pages avec les deux volumes.
Oui, exactement. Parce que ça a été écrit sous forme de feuilleton, un peu comme... Et d'ailleurs, l'inspiration directe de ça, c'est quand j'étais adolescent, j'ai beaucoup appris l'histoire de France en lisant les feuilletons d'Alexandre Dumas, comme Le Collier de la Reine, Les Trois Mousquetaires, Michel Zévaco, il y avait d'autres... Et puis moi, je me disais, j'aimerais ça, que les lecteurs puissent apprendre l'histoire du Canada à travers un roman. Alors, la technique, c'est très dumasien, c'est de raconter des faits réels, avec des personnages réels, mais d'y incorporer des personnages fictifs, dont l'intrigue s'entrelace avec l'intrigue historique.
Ah oui, quelle belle saga. Moi, j'ai embarqué rapidement. Et comme je vous le disais avant qu'on entre en onde, aussitôt qu'on est dans la lecture, là, on oublie parce qu'on rentre vraiment dans l'histoire. Je me pensais un peu à l'époque de Franck Freluche. On embarque dans le livre et on suit les aventures des différents personnages. Pourquoi l'époque de Wilfrid Laurier vous a fasciné?
De mémoire, parce que ça fait quand même longtemps. Je vais vous avouer que mon premier synopsis que j'ai fait en 1976, je voulais juste écrire un feuilleton. J'avais comme titre de travail les mystères de Montréal, comme il y a eu des mystères de Paris, de Gênes Sue. Et c'est quand j'ai commencé des recherches en bibliothèque, je suis tombé sur cette période très, très intense de l'histoire du Canada où Wilfrid Laurier prend le pouvoir, c'est le premier Canadien français à devenir premier ministre, et en creusant autour de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une intrigue qui est très d'actualité, parce qu'on parle Au cœur de la question au Parlement, c'est l'année où se débattait la loi réparatrice pour obliger le Manitoba à rétablir les écoles catholiques et françaises. Wow. Et tout l'antagonisme anglo-protestant et canadien-français était extrêmement pointu à cette époque-là. Et à partir de là, ben, j'ai brodé mon histoire en découvrant aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les journaux d'époque. Et je me suis rendu compte que Montréal, en 1895, c'était, après New York, la ville où il y avait le plus de culture. J'ai été un peu chanceux parce qu'au fil des recherches, j'ai découvert, par exemple, que c'est la même année où a été créée l'École littéraire de Montréal avec les poètes. Il y avait un opéra français à Montréal qui donnait des représentations 6 jours par semaine. Alors j'en suis venu je voulais faire revivre l'époque pour que, justement, que le lecteur soit plongé dans une atmosphère. Et c'est surtout que quand on lit des romans qui se déroulent au 19e siècle, on est très souvent dans le misérabilisme. Là. Je parle des belles histoires des pays d'en haut, par exemple, ou les romans terriens qu'il y avait à l'époque. Alors, j'ai voulu créer, moi, une espèce de vie tumultueuse où la culture était à l'avant-plan. Et évidemment, en parlant de la politique, le clergé se mêlait beaucoup de politique à l'époque. Alors, c'est devenu un peu une fresque.
Et on parle des rêves aussi, entre autres, parce qu'au début, là, on rencontre Jean-François Kerouac. Lui, c'est un jeune du Kamouraska qui arrive à Montréal, puis il y a plein de rêves en tête. Puis on rencontre aussi Mademoiselle Barilly, une cantatrice.
Oui, ces deux personnages-là sont fictifs. Et disons que Jean-François, c'est un peu le personnage mayonnaise qui relie tout le monde.
Oui.
Et Mademoiselle Barilly est le personnage principal. Et je voulais aussi avoir une femme forte, une femme féministe avant l'heure. Et c'est toujours en lisant les journaux d'époque que j'ai appris que cette année-là, en fait, en 1895, il y a eu à Montréal le Congrès national des femmes. C'est un organisme, en fait, une organisation qui voulait l'émancipation des femmes avec le droit de vote, tout ça. Ça a été fondé par l'épouse du gouverneur général, Lady Aberdeen. Et je fais intervenir, justement, dans le tome 2, des personnages comme Marie Gérin-Lajoie, Joséphine Marchand, des pionnières du féminisme.
C'est super intéressant. J'invite les gens à se procurer donc les deux tomes qui sont maintenant disponibles dans l'ombre du Mont-Royal. Le premier, c'est Le secret de Wilfrid Laurier, et le deuxième, Le destin de Mademoiselle Barilly. C'est aux éditions Flammarion Québec, des tomes assez volumineux, faut le dire. Le premier, 552 pages. Le deuxième, 464 pages. On est dans les 30 $. Belle suggestion pour nos vacances cet été, pour une belle lecture. Monsieur Sylvain-Claude Filion, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser ce matin.
Bien, je vous remercie. Je suis heureux que ma notoriété s'étende jusqu'au Nouveau-Brunswick.
Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été, Monsieur Filion.
Merci à vous de même.
Au revoir.